Donc nous sommes très heureux d'accueillir Madame Catherine Mongenet, qui est directrice du GIP Fun MOOC. Nous avons eu l'occasion de parler du GIP Fun MOOC. Et Monsieur Dominique Boulier, qui est directeur du Social Media Lab de l'École Polytechnique de Lausanne, qui a été un des inspirateurs de notre rapport de l'inspection générale. Donc l'un comme l'autre d'ailleurs. Et nous vous remercions de votre engagement.
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité de faire un point avec vous sur cette initiative que nous avons lancée collectivement il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc je voudrais vous dire un petit peu où on en est et faire un petit point de focus évidemment sur les activités à l'international que nous avons. Très vite, vous le savez, c'est un projet qui a été initié sous l'égide de Geneviève Fioraso en 2013. Et comme le rappelait Marie-Françoise tout à l'heure, depuis septembre 2015, cette initiative qui a été démarrée un peu comme une start-up au sein de notre ministère est devenue un groupement d'intérêt public qui s'appelle donc Fun MOOC. Ce groupement d'intérêt public comprend aujourd'hui 29 membres. Une bonne partie de ces membres sont des communautés d'universités et d'établissements, ce qui explique que derrière ces 29 membres se cachent quasiment 200 établissements d'enseignement supérieur français. Par ailleurs, évidemment, nous avons dans le GIP des partenaires publics, des partenaires privés, et surtout ce qui fait, je crois, une des forces de FUN aujourd'hui, c'est que nous avons un réseau de 850 personnes, des référents, des correspondants, des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs qui travaillent dans vos établissements et avec qui, évidemment, nous échangeons très régulièrement, avec qui nous faisons des formations, des séminaires, avec qui nous partageons de la documentation, etc., etc. Et puis, nous avons en 2016 un certain nombre de sujets qui émergent, dont je voudrais vous parler rapidement. Avant cela, un point sur le bilan. On était parti, rappelez-vous, en 2013 avec 25 MOOC. Aujourd'hui, on en a 225. Un MOOC, c'est un cours. Un cours se joue et se rejoue de manière régulière, tout en subissant au fil de ces nouvelles sessions des améliorations, des évolutions de la part des enseignants, évidemment. Certains enseignants passent beaucoup de temps à préparer la nouvelle session de leur MOOC. Donc aujourd'hui, on a joué sur la plateforme FUN plus de 375 sessions de MOOC qui ont suscité toutes ensemble plus de 2 200 000 inscriptions aujourd'hui. Ce bilan du côté des institutions, plus de 80 institutions françaises, universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce sont productrices de MOOC sur FUN. Nous avons plusieurs producteurs étrangers. Vous voyez l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Genève, l'Université de Mons a rejoint le projet FUN il y a quelques semaines. 2 universités tunisiennes, l'Université de Sousse et l'Université de Gendouba sont également membres de FUN. Et effectivement, comme le mentionnait Marie-Françoise tout à l'heure, non, c'est pas Marie-Françoise, pardon, c'est Anne, un des partenaires de FUN, c'est l'université virtuelle en environnement et développement durable, UVED, qui est un des producteurs significatifs de MOOC dans le domaine de l'environnement. Je vous montre ici un bilan chiffré plus détaillé. Je ne vais pas revenir sur les profils et sur les niveaux d'études, vous avez déjà sans doute vu ça. Je veux vraiment pointer du doigt, parce qu'on est ici aujourd'hui pour parler du développement international des contenus en ligne. Évidemment, le chiffre qui est intéressant, c'est sur le graphe, sur la table, la carte, pardon, les 17% d'internautes africains. Ces 17% d'internautes africains, si je zoomais, évidemment, se trouvent principalement d'une part au Maghreb et d'autre part en Afrique francophone subsaharienne. Je voudrais faire un point rapide sur les évolutions. En 2013, beaucoup de collègues ont dit les MOOC vont faire pchit, les MOOC sont un sujet qui va disparaître, on voit bien qu'il n'en est rien, et que les universitaires qui ont commencé à produire des MOOC, construisent des stratégies autour de la production de MOOC, et on voit arriver sur la plateforme des stratégies d'agrégation de contenu qui donnent une valeur ajoutée à l'ensemble de ces contenus. Je vous présente ici 2 collections qui précisément agrègent des contenus pour donner un ensemble de compétences dans un champ disciplinaire. La première, enseignée et formée avec le numérique, qui est pilotée par le NSK Champ, évidemment est une collection importante. Vous remarquerez que tous les cours ne sont pas produits par Léonès Cachan. C'est vraiment une œuvre collective. Il y a un ensemble de producteurs, un ensemble d'établissements qui produisent ces MOOC et qui contribuent évidemment de manière importante à la formation des enseignants du primaire, du secondaire, qui contribuent également à la formation dans les ESP, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'ESP utilisent ces MOOC sur les campus dans leur formation sous forme de classe inversée. Le deuxième exemple, vous le connaissez encore mieux, c'est évidemment un exemple qui a été créé à l'égide de notre ministère, puisque l'ensemble des compétences du certificat informatique et Internet, dont Marie-Françoise parlait tout à l'heure, ont été mis sous forme de MOOC, et vous avez aujourd'hui une collection de 4 MOOC qui sont utilisés par tous ceux qui ont envie de les utiliser, mais dont on sait qu'ils sont utilisés par un certain nombre d'enseignants dans leurs enseignements. On sait même que depuis 2014, une école d'ingénieurs à Tunis utilise ces MOOC de manière intensive dans la formation de ses étudiants. La deuxième évolution, qui est un peu différente et qui est, je crois, encore plus significative, c'est la notion de parcours, ce que les anglo-saxons appellent, en tout cas dans le monde des plateformes de MOOC, les « series ». Je vous présente ici les deux premiers parcours qui sont vraiment identifiés comme tels sur FUN, mais si vous regardez, il y a davantage d'ensembles cohérents qui peuvent constituer des parcours. Le premier, c'est un parcours sur la fabrication numérique. 3 MOOC. Alors là, évidemment, la notion de parcours, c'est l'idée que le premier MOOC est un prérequis du second, qui est un prérequis du troisième. Donc on n'est pas dans une logique de collection où on prend un peu beaucoup de MOOC, on est vraiment dans cette logique de parcours progressif. Ces 3 MOOC permettent à tous ceux qui sont intéressés d'avoir toutes les compétences pour aller demain dans un Fab Lab pour produire un objet numérique. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces MOOC-là, nous identifions, nous savons qu'il y a un certain nombre de Fab Labs en France, mais aussi en Afrique, qui utilisent ces cours pour créer des sessions de rencontres en présentiel dans leur Fab Lab pour que les gens qui ont envie de travailler sur le MOOC puissent le faire ensemble. Et puis, une fois qu'ils sont dans le lieu, d'avoir accès au matériel pour non seulement faire une pratique d'apprentissage un peu théorique sur le cours, mais bien de pratiquer, manipuler dans le Fab Lab. Le deuxième de ces parcours est un parcours qui a été proposé par l'Université Jean Moulin de Lyon 3 sur les processus métiers. Le premier MOOC, on apprend à cartographier les processus métiers. Dans le second MOOC, on apprend à les piloter. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'initiative de nos collègues de Lyon, c'est qu'ils ont packagé ces deux MOOC dans un nouveau diplôme d'université qu'ils ont créé l'année dernière et qui permet aux internautes qui le souhaitent, qui ont réussi les deux MOOC et qui vont ensuite à l'Université de Lyon s'inscrire au DU, qui font un travail personnel avec un projet qui leur permet de démontrer que ce qu'ils ont appris dans le cadre de ces cours, ils l'ont mis en valeur, ils l'ont mis en musique, ils l'ont appliqué dans leur organisation, dans leur vie professionnelle, d'obtenir le diplôme d'université de Lyon. Alors, on voit bien qu'il est en train de se passer plein de choses autour des usages émergents des MOOC. Je veux en dire deux mots, vous montrer ce qu'on fait, nous, chez FUN, pour accompagner ces développements, avant de faire un focus sur l'international. Le premier sujet, c'est le sujet des certificats et des attestations. Sur FUN, comme sur toutes les plateformes de MOOC, depuis le début, on donne des attestations. Une attestation de réussite, c'est un document qui n'a pas de valeur académique pour un universitaire, puisque ce document n'a pas fait l'objet d'une vérification d'identité et que l'examen qui conduit à l'attestation, n'a pas permis de vérifier que les conditions académiques étaient requises. Vous pouvez passer une attestation sur FUN comme sur les autres plateformes en utilisant un collègue qui vous aide, en utilisant des ressources que vous avez sur votre ordinateur. Donc l'attestation n'a pas de valeur académique et pour autant, il y a une demande très forte. Je vous montre ici les résultats d'une enquête que nous faisons tous les ans. Vous voyez l'enquête de 2014 en jaune, l'enquête de 2015 en bleu. Et ce que nous demandons là, cette question, c'est est-ce que vous êtes intéressé à avoir à la fin du MOOC un document qui atteste que vous avez acquis des connaissances et des compétences sur ce MOOC. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les barres bleues sont supérieures aux barres jaunes et que donc l'écosystème, les internautes qui font des MOOC commencent à avoir de plus en plus d'intérêt pour ces dispositifs. Ce qui est évidemment extrêmement intéressant dans au cœur de la discussion d'aujourd'hui, au cœur de cette conférence, c'est le chiffre que nous remarquons sur les résidents africains. Si la moyenne des internautes de FUN sont environ 50-54% à vouloir un papier qui a de la valeur académique à la fin de leur MOOC, vous voyez que les résidents africains, que les internautes africains, sont plus de 80%, l'année dernière même 85%, à vouloir obtenir ce document. Et donc, depuis le début de cette année, depuis le mois de mars très exactement, nous délivrons sur FUN, sur les MOOC qui le souhaitent, un certificat qui, pour le coup, a une véritable valeur académique. Il est délivré par l'établissement qui délivre le certificat. Il est même signé par le président ou le directeur de l'institution pour accréditer de sa valeur. Et d'ailleurs, il y a au moins un établissement sur FUN qui délivre déjà des ECTS pour les certificats obtenus. Mon avant-dernier point, vous l'avez compris, certains d'entre vous le vivent tous les jours, au-delà des MOOC ouverts, gratuits sur une plateforme comme FUN, les usages se diversifient. Les usages se diversifient sur les campus où des enseignants réutilisent les MOOC en classe inversée. Certains enseignants utilisent même le MOOC d'un de leurs collègues dans leur formation. Évidemment, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le fait qu'un certain nombre de MOOC qui sont professionnalisants ont un impact fort en matière de formation continue. Et que donc un certain nombre d'universités productrices de MOOC sont en train de vendre leur MOOC, de commercialiser leur MOOC, de diffuser leur MOOC dans le monde de l'entreprise, soit auprès d'une entreprise, soit auprès d'un OPCA. Je vous ai mis ici l'exemple d'un MOOC qui a été fabriqué dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'OPCA des industries alimentaires, qui va précisément dans ce sens. Donc vous le comprenez, les usages se diversifient, et pour aller accompagner cette diversification des usages, sur FUN, nous sommes en train de déployer un ensemble de plateformes. La plateforme FUNMOOC, vous la connaissez, c'est notre navire amiral. C'est la plateforme sur laquelle nous mettons toujours les MOOC ouverts, gratuits et accessibles à tous de nos établissements membres et partenaires. Nous sommes en train de déployer, et elle va sortir très prochainement maintenant, une plateforme qui s'appelle FUNCampus. L'objectif de FUNCampus, c'est d'y mettre tous les cours qui sont utilisés sur les campus en classe inversée. FUNCorporate, c'est la même idée, mais pour les entreprises. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont envie d'utiliser vos MOOC produits dans vos établissements pour des besoins spécifiques. Et donc, pour ça, nous commençons à déployer des marques blanches. Une marque blanche, c'est la même plateforme que FUN, mais au lieu d'être aux couleurs de FUN, elle est aux couleurs de l'acteur qui en a besoin, avec son logo, ses couleurs et la maîtrise des inscriptions et du suivi des inscriptions. Les coopérations internationales, beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin, et évidemment, la réalité autour de FUN et parmi tous les acteurs de FUN, c'est que ces coopérations se développent. Il y a sur FUN un ensemble de MOOC qui sont co-construits entre des partenaires du Nord et des partenaires du Sud. Vous avez ici un exemple d'un MOOC d'hydrologie qui est fait avec des Français, des Belges, des Vietnamiens, des Colombiens. Et je crois que j'oublie encore une nation. Vous avez un autre exemple, un MOOC sur l'écotourisme qui est porté par l'université de Gendouba, qui a été fait en partenariat avec Toulouse. Donc véritablement des sujets où des collègues du Nord et du Sud travaillent ensemble pour produire des MOOC. Et il ne vous échappe pas que si un MOOC intègre des gens qui viennent d'horizons différents, ils peuvent apporter des regards différents, des études de cas différentes et donc enrichir naturellement le contenu. Le deuxième sujet qui est intéressant, c'est la réutilisation des MOOC dans des contextes différents. Je vous remontre, mais j'imagine que Olivier Faron hier en a parlé, le MOOC Désir d'entreprendre du CNAM, qui est aujourd'hui utilisé par des doctorants dans le cadre de leur cursus obligatoire dans 4 universités marocaines. Et enfin, FUN, en tant que groupement d'intérêt public, développe des collaborations à l'international. Et peut-être avez-vous suivi, nous avons signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Maroc au mois de juillet, en partenariat avec l'ambassade de France, une convention. Et cette convention prévoit que nous allons mettre à disposition des universités marocaines une plateforme dédiée sous forme de marque blanche. Le nom de code de cette plateforme aujourd'hui est Maroc Université Numérique. Je ne sais pas si ça sera le nom final. En tout cas, c'est un projet qui est en cours et nous allons former les équipes marocaines la semaine prochaine. Et la plateforme sortira très probablement, si ce n'est à la fin de l'année, tout début de l'année prochaine, avec l'ambition évidemment pour les universités marocaines d'offrir à leurs étudiants une plateforme sur laquelle tous les cours des universités marocaines pourront être accédés gratuitement par tous. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ouvrira les questions de la salle après la présentation de Dominique Boulier. Dominique Boulier, c'est le PFL de Lausanne, hein, qui va nous faire une présentation de sa lecture actuelle, peut-être critique de certains aspects des MOOC, peut-être très laudatif, je ne sais pas. Et voyons un peu comment un regard expérimenté en matière d'enseignement numérique à distance peut jeter un œil, une analyse approfondie de ce phénomène extraordinaire des MOOC. Merci.
Merci Albert-Claude. Bonjour à tous. Je suis récemment à l'EPFL, donc oui. Je n'ai pas porté la parole à l'EPFL, évidemment. J'étais à Compiègne, mais j'étais aussi à Sciences Po plus récemment dans cette aventure des MOOC. Et donc je voudrais juste resituer quelques éléments de généalogie, précisément, qui ont déjà été faits d'ailleurs par une interlocutrice précédemment. Mais il est absolument, et c'est à mon avis assez important pour comprendre où l'on va. Et je dirais qu'il y a, en quelque sorte, moi j'ai l'habitude de résumer ça en trois âges de la e-éducation, si l'on veut, à condition qu'on ne comprenne pas les âges comme des âges qui poussent l'autre dehors, c'est-à-dire ce sont des âges qui cohabitent, évidemment. Alors, un élément qui n'a pas été mentionné dans les présentations que j'ai vues ce matin, c'était, d'une certaine façon, ce qu'on appelle les LMS, les Learning Management System. Et puis, Albert-Claude était aussi dans cette aventure-là, à la fin des années 90. Et moi, j'avais créé effectivement un diplôme à Compiègne en ligne complètement, et avec des plateformes comme Learning Space, il y avait aussi Web City à l'époque, etc. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que, d'une part, c'est quelque chose qui ne peut pas être oublié quand on construit un projet éducatif, c'est-à-dire qu'il y a des contenus, certes, et vous en parlez, vous êtes centré sur les contenus, c'est normal, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute cette dimension administrative ou de gestion de la programmation de l'activité pédagogique qui est très importante, et ça a donné lieu quand même à Moodle maintenant, que certainement beaucoup d'entre vous utilisent aussi, et qui est justement open aussi, et qui est open source. Donc c'est très important de voir comment tout cela se combine et que ces générations-là ne sont pas oubliées, qu'on continue à les réinventer et qu'elles sont une des couches essentielles de tous ces dispositifs. Le deuxième, ce sont les UNT, évidemment, et donc là, vous connaissez ça bien mieux que moi. Donc tous ces contenus riches, avec ces dispositifs de production et de mise à disposition, tout cela, ce sont des choses qui se sont maintenues, qui durent, donc là, il n'y a pas, et qui en réalité sont aussi quelquefois réinventées, voire concurrencées, mais de façon un peu proliférante, quelquefois sur le web avec des choses comme la Khan Academy ou d'autres choses, mais on voit bien qu'il n'y a pas le même statut que les UNT avec tout leur processus de formalisation d'une part et de labellisation. Et puis on a cette génération des MOOC, effectivement, qui là encore ne remet pas en cause ce qui a été fait auparavant, mais qui ajoute une couche supplémentaire au sens où on peut exploiter des plateformes de diffusion de masse, plus ou moins ciblés d'ailleurs. Là aussi, les contenus sont riches, ils sont plus ou moins scénarisés, mais ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a cet effet agrégateur qui génère une visibilité et une attractivité avec des éléments de granularité assez fines qui permettent de satisfaire différentes demandes. Donc, en réalité, si on pense ces générations-là en termes de couches, du point de vue informatique, on est assez habitué à cela, bien effectivement, on a cette couche de management, d'organisation, de programmation, cette couche de contenu et cette couche de diffusion ou de distribution avec les formatages qui sont nécessaires. Donc c'est très important de garder quand même cette diversité en tête parce que précisément on a besoin de toutes ces couches. On ne peut pas effectivement prétendre ensuite se passer de l'une ou de l'autre. Et pourtant, ce sera mon deuxième point, il nous manque quand même d'autres couches. À mon avis, il en manque une notamment. Et je vous dirais que la première, effectivement, c'est la pédagogie qui me semble parent pauvre. C'était fait exprès pour vous faire hurler un petit peu. Donc c'était justement pour ça. Donc, dans le sens où, effectivement...
J'aime bien parce que j'ai dit ça un peu hier. Ça paraissait un peu provocant, provocateur.
Non.
Mais tu vas dans mon sens. C'est
exactement.
Formidable.
Dans le sens où, effectivement, on sait très bien que quand moi, je faisais mon diplôme en ligne à l'UTC, etc., on avait un outil de programmation avant tout, mais on avait une visée pédagogique. On avait des ambitions pédagogiques. Mais la plateforme n'était pas forcément très adaptée pour ça. Et même Moodle, encore, ceux qui l'utilisent savent bien que ne peut pas tout faire avec, hein, ça c'est clair. Même chose pour l'ensemble d'une plateforme, quelle qu'elle soit, autrement, qui va diffuser des contenus, eh bien on voit bien que ce n'est pas fait pour certaines activités, notamment pour cette ce pilotage fin de la relation entre l'enseignant et l'étudiant ou de la relation entre étudiants. Et donc là, on a quelque chose qui reste une couche encore trop sous-développée et qui suppose non seulement de la technologie, mais qui suppose aussi des concepts et qui suppose une vision et qui suppose, par exemple, des choses sur lesquelles moi j'avais travaillé à une époque, sur cette forme de métalangage des actes pédagogiques pour qu'on ait une langue pour parler de ça. Il y a des experts en quantité, vous êtes certainement parmi ceux-là aussi, mais en réalité, on n'est pas encore capable d'outiller cela pour mobiliser toutes ces compétences-là. Le deuxième élément qui me paraît important, qui reste problématique, c'est le modèle économique, parce qu'on voit bien effectivement que dans l'époque des LMS, on avait des solutions privées qui se sont effondrées, d'ailleurs, parce qu'on croyait que c'était la poule aux œufs d'or, hein, l'enseignement en ligne. Bon, on s'est aperçu que c'était quand même plus compliqué que ça. Et on voit bien que c'est une solution open source comme Moodle qui a duré. Et puis pour les UNT, on voit bien que ça mobilise aussi des subventions publiques massivement quand même. Donc c'est ça qui est quand même à la source de tout cela. Et du coup, les plateformes des MOOC qui ont été créées ont pu, pour certaines, être créées sur des fonds publics aussi. Et pour d'autres, précisément, elles ont pu prétendre développer un nouveau modèle économique en constituant ce que j'appelle moi aussi l'effet plateforme, c'est-à-dire en produisant l'effet plateforme au sens de ce que j'appelle le capitalisme financier numérique, c'est-à-dire à la fois cette capacité à attirer des demandes et des offres et à devenir une place de marché qui domine et qui lève suffisamment de fonds pour ensuite avoir une force de frappe très importante. Je crois qu'on ne peut pas oublier ce contexte-là, vous connaissez bien autant que moi, bien entendu, mais c'est très important de voir que toutes les stratégies qui sont adoptées doivent se situer dans cet environnement-là, avec des contenus donc, qui sont produits ailleurs, à leurs frais, par les universités, et qui génèrent du coup une supposée attractivité de masse par ces grandes plateformes comme Coursera, par exemple. Mais on voit bien que la réputation finit, du coup, par aller aussi à la plateforme, y compris maintenant, elle finit par donner des certifications qui valent diplomation et qui deviennent d'ailleurs payantes, puisque le modèle de revenu qui était supposé ouvert à tous, en réalité, suppose, au bout d'un moment, de générer des revenus à travers des certificats. Et c'est ce qui s'est passé pour Udacity dans le domaine professionnel et pour Coursera aussi. Et du coup, d'ailleurs, la conséquence, c'est que, comme par hasard, ce qui est supprimé petit à petit dans les évolutions de Coursera, eh bien, ce sont les éléments liés à la discussion et dans les nouvelles versions et tout ce qui peut être assignments ou publication de la part des étudiants. C'est pas un hasard, ça coûte cher, ça c'est compliqué à gérer, et effectivement, on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Et alors, il faut bien voir que, paradoxalement, ça peut quand même continuer à marcher dans ce modèle-là, parce qu'en réalité, on a toujours, un effet de levier du point de vue des investisseurs, qui fait qu'on peut, comme on agrège beaucoup de contenu et qu'on agrège beaucoup d'étudiants, enfin de clients, si on veut, d'une certaine façon, on continue à attirer des investissements et on gagne une puissance financière qui vous permet, on le connaît dans d'autres domaines, dans les autres plateformes, de faire table rase de tout votre environnement et de construire ces oligopoles qui sont présents un peu partout. Fort heureusement, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions de ce point de vue-là qui limitent les dégâts, mais il ne faut pas sous-estimer ce risque-là. Il est toujours là, présent. Et on voit bien que ces plateformes-là peuvent différer leurs revenus et leur rentabilité de façon très importante. C'est ce que fait Amazon, ce que fait Spotify, etc. C'est pas grave, on attend. Mais en attendant, 20 ans après ou 10 ans après, on a déjà commencé à écraser toute la diversité. Donc l'intérêt, c'est de devenir incontournable et de dicter sa loi, ce qui est d'ailleurs le cas pour les universités qui se sont engagées dans ces domaines-là. Alors j'en parle d'autant mieux que Sciences Po l'a fait d'aller sur Coursera. J'étais contre, je vous le dis carrément. Et le PFL le fait aussi, et je suis toujours contre aussi. Mais bon, il n'empêche que c'est effectivement un choix qui fait qu'on va dans des plateformes qui ne sont pas ouvertes, qui sont des filles. Là, dans toute cette culture ouverte que vous vantez, ces ressources illibles, ce n'est pas le cas. Et on, dans l'espoir de générer des revenus, et surtout dans l'espoir d'attirer une audience, parce que la plateforme est supposée être la gagnante qui va effectivement attirer ce public massivement. Je pense qu'on y perd, on y gagne à court terme, mais on y perd à long terme, mais ce n'est pas du tout une stratégie durable de mon point de vue. Alors comment est-ce qu'on peut garantir ce pluralisme et comment on peut du coup garantir la différence, parce que c'est ça qui est en jeu dans cette affaire-là, différence culturelle, différence de modèle pédagogique, différence de type de business model, même d'une certaine façon, de modèle d'affaires. Moi, je pense plutôt différence que compétitivité. Vous savez, ça me donne des boutons un peu ce terme qu'on trouve partout. Parce que compétitivité, on voit bien que ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à du suivisme, à de l'imitation, et en réalité à courir derrière ceux qui ont déjà gagné. Donc on n'a pas grand-chance de faire quelque chose de plus. En revanche, si vous pensez en différence, il y a encore de la compétition, bien entendu, mais c'est de la différence au sens où on s'appuie sur ses propres qualités, sur ses spécificités, et on les valorise. c'est peut-être parce que je suis linguiste de formation que je me souvenais de Saussure quand il disait effectivement la valeur d'un élément, c'est d'être ce que les autres ne sont pas, vous voyez, définition structurale fondamentalement, eh bien c'est la même chose. Là. C'est-à-dire que vous ne créerez pas de valeur en copiant les modèles des autres, c'est tout, c'est clair. Et c'est ce qui m'a été, comment dire, ce qui m'a fait être un peu, tiède, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis des MOOC, au sens où justement on reproduisait des choses qui existaient ailleurs. Cela dit, quand une puissance publique se met en route et génère effectivement ces plateformes et ces opportunités pour embarquer tous les décideurs comme des pédagogues dans ce mouvement-là, je trouve ça positif parce qu'au moins on commence à s'intéresser à cette dimension de production de contenu, on l'étend. Donc ça, cette affaire-là, ce levier a été très important. La question est posée désormais, c'est de dire comment est-ce qu'on passe précisément à une troisième ou une quatrième génération, si on veut, ou cette nouvelle couche. Et je terminerai là-dessus en disant que l'élément clé pour moi... Il ne suffit pas que ce soit libre, j'allais dire, il faut, parce que précisément, c'est une qualité incontournable, mais il faut aussi que ce soit coopératif. Donc coopératif au sens aussi distribué. Vous voyez que l'enjeu dans lequel nous sommes actuellement, c'est que l'Internet a été conçu comme un dispositif, un réseau distribué. Les plateformes sont actuellement en train de le tuer, le modèle distribué. Il faut bien le dire, à tout point de vue, du point de vue topologique, commercial ou sécurité y compris. Donc de ce point de vue, c'est très, quand même très important. Donc maintenir l'esprit de la coopération, maintenir l'esprit de la distribution et de la coproduction, c'est un point élémentaire. Et je vous en avais déjà donné des exemples ce matin, c'est très bien. Donc je prendrai deux dimensions de cette affaire-là. La première, c'est la dimension de la coopération entre les pays. On sait bien que la symétrie qui est vantée par des plateformes comme Coursera, effectivement, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça disqualifie les compétences des pays, ça assèche notamment les ressources des pays du Sud, notamment. Et donc, il y a des exemples qui sont possibles, qui existent au niveau d'un projet. Moi, j'ai suivi un projet dans le MOOC Espace mondial de Bertrand Badie. Effectivement, on avait commencé à développer ce MOOC avec ce qui a été rappelé d'ailleurs dans le cas de FUN pour l'hydrologie ou dans celui de l'UNT sur les religions. Eh bien, on voit bien qu'on peut faire travailler plusieurs profs ensemble, plusieurs équipes et qui ont des points de vue. Et là, c'est très intéressant parce qu'on nous dit toujours, vous savez, et alors, spécialement dans l'école d'ingénieurs où je suis maintenant, effectivement, on aurait tendance à dire, effectivement, vous savez, il n'y a qu'une façon d'enseigner Python, et puis voilà, bon, après tout, donc c'est des savoirs en boîte, comme je disais, et puis boum, c'est bon, ça sort, c'est universel. Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Même ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pédagogies pour ça, et il y en a qui marchent, et il y en a qui ne marchent pas. Je peux vous dire, on peut les comparer, les résultats sur les MOOC, après, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc là, déjà, du point de vue pédagogique, il y a des façons de faire différentes. Mais il y a aussi, intrinsèquement, même dans la matière, quelquefois, dans la matière enseignée, il y a de la diversité, il y a du pluralisme, et c'est cela qui fait la valeur même du dispositif pédagogique. Donc c'est pour cela qu'il faut l'intégrer, cette coopération, comme productrice non seulement de contenu, mais de réflexivité sur le contenu, et donc de capacité à passer d'un point de vue à l'autre et à se rendre compte, à produire cette distance-là, qui n'est pas l'universalisme abstrait qui souvent la France a tendance à porter, mais je pense que la France est aussi très bien placée pour porter justement un universalisme de la discussion, des points de vue divers et de la capacité justement à circuler entre ces points de vue. Ça, c'est une vision qu'on peut tout à fait porter. Alors on voit bien que ça se traduit dans des stratégies internationales, pas au niveau de chaque MOOC, si vous voulez, mais au niveau de la stratégie internationale et des dispositifs. Et c'est ce que... alors là, par contre, j'étais assez fasciné parce que le PFL a fait, de ce point de vue-là, avec l'Afrique. Là, il y a une cible, on identifie bien l'Afrique subsaharienne francophone, on ne se disperse pas, et on fait autre chose que seulement diffuser des contenus. On fait de la coopération avec les enseignants, on les fait venir, ils vont, etc. Et on fait de l'équipement technique, ce qui a été mentionné d'ailleurs dans certains des projets là, dans lesquels les UNT. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va augmenter les ressources techniques pour que ça fonctionne, sinon ce n'est pas tout à fait possible. Et puis on invente même des dispositifs expérimentaux, avec des kits expérimentaux à 15 euros, là, qui permettent aux étudiants de faire en sciences expérimentales des choses chez eux, etc. Donc tout cela, c'est un engagement, disons, qui va au-delà de la simple diffusion, et ça c'est très important. Et puis dernier point, c'est la même chose pour la coopération entre étudiants. On sait bien que dans les MOOC, par exemple, les retours que l'on a, c'est toujours que ce que les étudiants retiennent, c'est les échanges entre eux. Ça, c'était génial, les discussions, etc. Et ça, c'est très important de se dire, on voit bien que les plateformes ne sont pas vraiment équipées pour ça, pour le moment. Elles ne font pas ça très bien. Et il y a du travail qui est en cours, justement, de ce point de vue. C'est ça l'intérêt d'être sur un module open source aussi, même pour OpenEdX, par exemple, pour FUN. Donc ça, c'est très important. Mais au-delà du peer grading, au-delà du peer reviewing, nous, on avait fait ça avec le MOOC de Bruno Latour, dont je dirigeais la pédagogie, ben, effectivement, on inventait des façons de se corriger les uns les autres, à mon avis. Ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse installer, encapsuler, j'allais dire, dans le code, dans la plateforme, un modèle de pédagogie active où on devient contributeur quasiment par nécessité. Et pour ça, ce n'est pas n'importe quelle plateforme qui peut le faire. On a encore du chemin à faire, du travail à faire, de l'innovation à faire dans ce domaine-là. Et là, c'est un choix. C'est un choix, c'est une orientation pédagogique, une orientation politique, et c'est une vision qu'il faut porter. Et du coup, ça peut du coup être constitué mais peut un ressort d'apprentissage, un ressort d'apprentissage collectif qui est autre que le quiz, quoi. Bon, c'est pas ça, vraiment, je déteste le quiz, donc je le dis carrément. Donc c'est pour ça que carrément, quand j'ai fait effectivement mon MOOC mobile, ben, l'intérêt c'était pas de faire des trucs mobiles et des petites vidéos courtes, on va dire, bah oui, mais pour récupérer l'attention qu'on a décomposée justement dans ces environnements-là, j'étais content de le faire, mais le problème c'est qu'il faut récupérer cette attention durable et donc il faut créer un moteur d'attention collective qui était, moi, c'était des challenges. Donc j'ai inventé des challenges, donc je les appelle des battles, tout ce que vous voulez. Enfin, quelquefois, c'est de la ludification, mais on n'est pas obligé de faire dans du ludique complètement délirant, mais on peut faire des ressorts de motivation collective pour que l'apprentissage collectif serve à récupérer une attention plus durable que celle que l'on a quelquefois dans la pure diffusion, où effectivement, on se retrouve quand même en spectateur. Donc vous l'aurez compris, effectivement, pour moi, l'enjeu actuel, c'est plutôt justement de se dire comment on construit collectivement dans les modèles de ressources open que vous avez déjà bien défendus les uns et les autres, comment on construit des modèles de coopération pédagogique et institutionnelle entre les enseignants et entre les étudiants. Merci.
Dominique, bravo, merci. J'espère que nous sommes tous des universitaires et que nous aimons tous l'esprit critique. Nous sommes amoureux de la pensée complexe et d'aller vers justement les paradoxes sur lesquels on est obligé de travailler et de ne pas être des victimes de la soap éducation, si je peux appeler ça comme ça, de la mondialisation de la pensée qui est derrière un certain nombre de pratiques et de sa marchandisation malgré tout. Donc, quand on est en faveur des ressources éducatives libres, eh bien, il faut effectivement que cet esprit que tu as souligné de la co-construction, de la coopération, domine par rapport à celui de la compétition, qui reste nécessaire, mais qui doit être mieux comprise, parce que le résultat de la compétition doit être mis à la disposition de tous. Et c'est ça qui fera le ferment de l'innovation et de la transformation de notre université. Alors, on a peut-être... Sonia me propose de laisser une ou deux questions à la salle. Je crois que les exposés sont suffisamment riches pour susciter sûrement des questions. Daniel.
Merci Jean-Claude. Je vais faire le lien entre les...
Tu peux te présenter, Daniel.
Oui, je suis directeur de l'association Columbus, qui était dans certaine façon à l'origine de l'initiative avec le Mexique. Et je voudrais bien aussi avec les liens avec ce que Dominique Boulier vient de présenter. Parce que je pense que l'expérience du Mexique, d'abord, exprime une initiative au niveau des systèmes qui va au-delà de la francophonie. Et je pense que ça, c'est une chose importante. Et ça s'est produit parce qu'aussi, de la part du Mexique, il y a une volonté politique qui s'exprime aussi avec des financements. Jusqu'au présent, selon les informations que j'ai, il y a 1,5 million d'euros qui étaient financés des côtés mexicains. Et la dernière réunion aussi exprime une certaine maturité parce que les personnes qui ont travaillé ensemble au Mexique le mois d'août, ils ont identifié des ressources existantes pour l'indexation croisée. Ils ont aussi accordé sur la traduction des ressources et surtout, dans le sens de ce que Dominique Boulier vient de dire, des projets de coproduction. Parce que je pense que cette expérience exprime une triple coopération. D'abord, la coopération entre les universités du même pays. Ça, c'est pas évident, vous le savez, en France. Et je pense que ça, c'est la valeur du modèle des UNT, qu'on a aidé les universités mexicaines à se mettre d'accord pour produire des contenus, sinon chacun pour soi-même. La deuxième coopération, c'est entre les pays, parce que ça va bien au-delà de la coopération pour la production de ressources. Ça peut aller dans le sens d'échanges académiques, doctorats conjoints, etc. Et en plus, la coopération entre les étudiants. Dans ce sens, je pense qu'il y a une initiative qu'on peut partager pour la coopération de DeepCoil, Collaborative Online International Learning, dont nous sommes pionniers dans les multilatérales. Je pense, en résumé, qu'on est content d'être associé à cette initiative et on est prêt à travailler plus davantage avec les universités françaises, dont nous sommes en réseau de 14 pays, mais la France n'est pas présente. Merci.
Merci. Et le monde hispanophone peut être embarqué par le Mexique dans ce même mouvement, cher ami ?
ça, parce que à partir du Mexique, on peut bien rayonner sur l'Amérique centrale et sur l'Amérique du Sud. Et c'est une initiative très importante parce que je pense que, comme vous avez une expérience déjà de 10 ou 12 ans, et vous montrez un peu le chemin des choses, comment est-ce qu'on peut le faire du point de vue légal, financier, technologique, mais aussi les erreurs que nous, qu'on ne peut pas commettre. Je pense que c'est une richesse incroyable. Et les rapports qui ont été présentés hier, je trouve que ça, il faudrait les traduire. Et on est bien prêt à collaborer pour ça.
Dominique, tu veux...
Et je connais aussi bien le point de vue, vous, parce que mon ami François Pécou m'a bien fait arriver des choses qui... Je reconnais l'esprit de la maison.
Merci. Une autre question encore? Non? Où on suit? On suit. Ouais. La chef de l'horloge. Merci. Et du temps. Merci en tous les cas à vous deux pour votre contribution extrêmement...